Salut, salut tout le monde et bienvenue aux amateurs de sport. Week-end, quelle journée chargée. Bon, vous connaissez déjà le résultat du match de la Coupe du Monde. Vous savez que Novak Djokovic a gagné à Wimbledon. On va parler aussi du Tour de France. Mais là, il y a deux nouvelles qui viennent tout juste de tomber dans le monde du sport. Donc, ça donne très bien que nous y soyons à ce moment-ci. Une nouvelle intéressante, le fun, positive. Une nouvelle, malheureusement, aussi très triste. Donc, la première nouvelle, je vais vous donner la bonne nouvelle en premier. Là. Le Canadien qui s'est entendu avec Philippe Danault sur un contrat de 3 ans. Donc, Philippe Danault qui devait aller en arbitrage. On n'ira pas en arbitrage. Ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, à 25 ans, il signe un contrat de 3 ans de 3 millions de dollars par année. C'est quand même assez raisonnable pour moi. C'est pas mal dans les chiffres là, que je pensais pour Philippe Danault. On va essayer de rejoindre Martin McGuire un peu plus tard durant l'émission pour lui parler. Étant donné là, l'arrivée de cette nouvelle-là, là, comme je vous dis, ça vient tout juste de tomber. Ça a été communiqué par le site Internet du Canadien de Montréal là, via les réseaux sociaux, Twitter, entre autres. Donc, Philippe Danault, 3 ans avec le Canadien, donc 9 millions de dollars là, approximativement sur les 3 ans. Maintenant, la nouvelle un peu plus triste, vous vous souvenez peut-être du gardien Ray Emery, qui a passé beaucoup d'années avec les Sénateurs d'Ottawa, les Flyers de Philadelphie. Eh bien, il se serait noyé ce matin. Selon certaines sources, il était allé se baigner au port de Hamilton. Et malheureusement, il aurait perdu la vie. Donc, on n'a pas plus de détails. En fait, je peux même pas vous confirmer vraiment si c'est véritablement vrai. Ça circule présentement un peu partout sur les sites Internet. Et c'est ce qu'on dit, que Ray Emery, donc l'ancien gardien de la Ligue nationale, serait décédé ce matin d'une noyade. Donc, histoire extrêmement triste. On va débuter cette émission avec du tennis et on va aller s'entretenir immédiatement avec Hélène Pelletier. Salut Hélène!
Bonjour Jérémy.
Salut Hélène. Hélène, on n'a pas eu la finale, disons, qu'on attendait. Là. On peut dire que Novak Djokovic a fait peut-être un peu durer le suspense dans le tout dernier set là, qui est allé chercher au bris d'égalité. Mais pour le reste, disons qu'avec les compétitions ardues, longues qu'on avait eues, par exemple en demi-finale, on se serait attendu à un match un peu plus long. Mais clairement, Kevin Anderson là, n'était pas à son meilleur là, physiquement.
Ouais, je dois t'avouer que nous ne sommes pas surpris de cela parce que... juste John Isner, qui lui, évidemment, vu qu'il était sorti du tableau, pouvait vraiment se permettre de dire ce qu'il pensait à l'issue de ce match à la rallonge de 6h36 minutes face à Kevin Anderson. Il a dit « Il n'a aucune chance de gagner ». Et j'ai juste d'avoir accès à la conférence de presse de Kevin Anderson et il dit « Vendredi, j'ai été incapable de dormir tellement qu'il était... » surexcité de la victoire et que son corps était presque en état de choc. Il avait les pieds tellement enflés qu'il a été obligé d'aller voir un médecin. Il avait les jambes en jello. Et aujourd'hui, on a vu très tôt dans le match, au premier set, qu'il avait complètement le coude en vrac. Ouais. Il a été opéré du coude. Alors là, quand tu dis que toutes les blessures... Tu sais, c'est un gros bonhomme de 6 pieds 8 qui est quand même lourd. Il a livré juste en deuxième semaine, Jérémy, OK? Juste en deuxième semaine. Ouais. Contre Gaël, mon fils, 4-7, dont 3 bris d'égalité, 3h29. Roger Federer. Puis Roger Federer, le truc qui a été formidable là-dedans, dans sa remontée, c'est qu'il a quand même sauvé balle de match au troisième set. Donc, il se pensait sorti. Donc, ça a été un match aussi très, très dur mentalement. 4h14, gagné 13-11 au cinquième set. Oui. Et contre John Isner, 6h36, 26-24 au cinquième set. Alors, on réalise que Federer, il a gagné, évidemment, le premier set 6-2. 6-2 contre Anderson, c'est 8 parties. Ben, au cinquième set, Anderson a joué 24 parties pour gagner la manche. Puis au cinquième set devant Isner, il en a joué 50 pour gagner la manche. Donc, à partir du fait que tu as joué en deuxième semaine, 5h27 minutes de plus que Novak Djokovic, qui lui, dans le fond, durant la quinzaine, c'est pas de sa faute, il a bien fait son travail, je lui lève mon chapeau d'avoir su négocier le tournoi, surtout la première semaine, avec énormément de doigté, mais en bout de ligne, il a joué 5h27 minutes de moins que Anderson en 3 matchs.
Oui, sauf qu'il y a eu la journée de congé hier... Novak n'a pas eu.
Mais écoute, il a passé ça dans des bains de glace. à essayer de se refaire une santé. Il était le pauvre gars claqué au grand complet. Il ne mettait pas une balle en jeu pendant deux sets. C'est déjà tellement extraordinaire qu'il réussisse finalement. Puis à cause de ses problèmes au coude, Jérémy, ça veut dire que tu lui enlèves sa meilleure arme.
Ben oui.
Et les grands et gros serveurs, ils dépendent tellement de leur premier service. Quand ils ont ça, tout le reste se place. Mais attends-toi pas qu'il soit excellent en retour de service et qu'il mène en fond de terrain s'il est incapable de servir. Tout ça tombe comme en pièces détachées. Tu comprends ce que je veux dire?
Oui.
C'est vraiment leur arme principale, comme Miloš Raonic, qui leur permet d'aller loin dans les sets et peut-être de se faufiler en bris d'égalité. Tu sais, bris d'égalité, c'est un peu comme les tirs de barrage. Alors, tout ça mis ensemble, il a été extraordinaire quand même pour se donner 5 balles de manche au troisième set, et à un moment donné, sur une des balles de manche, il a tout fait ce qu'il fallait, Kevin Anderson, mais Novak lui a sorti une balle extraordinaire sur la ligne. Alors, il y a eu des sets de trop, des matchs trop longs du côté de Kevin Anderson, il a été brillant pour se rendre jusque-là, mais honnêtement, ce qu'on voyait lors des deux premières manches, on pensait que ce serait comme ça, 3 sets de suite, tellement il était épuisé, et bravo à Novak Djokovic, qui renaît de ses cendres, dans le fond.
Oui, ben c'était ma prochaine question. Hélène, est-ce qu'à un moment donné, tu as douté de la possibilité de revoir Novak au plus haut sommet? Là, il gagne la quatrième fois à Wimbledon. Il reviendra dans le top 10. C'est déjà confirmé.
Oui.
Bon, il y a eu une opération sérieuse, grave, qui mettait en doute le reste de sa carrière. Il l'a dit lui-même après le match. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, c'est peut-être terminé pour les grands moments pour Djokovic?
Mentalement, il était comme complètement perdu, puis il cherchait dans toutes sortes de domaines. On sait, évidemment, je veux pas revenir là-dessus parce que c'était un petit peu triste de le voir complètement se perdre. Puis il a failli aussi perdre sa femme, son mariage, ses 2 enfants. Finalement, tout ça, ils en sont venus à une entente. Les choses vont mieux entre les deux, tant mieux.
Ouais.
Parce qu'on voudrait qu'ils soient des exemples dans tous les aspects de leur vie. Ça fonctionne pas comme ça, je le sais, là, mais je porte pas de jugement, mais quand même. Et il était tellement loin en Australie. C'est extraordinaire. Et tu sais, ça a remonté. Ça a commencé lorsqu'il est allé chercher à nouveau, parce qu'il avait changé son équipe en grand complet pour ce qui est de ses coachs et toutes les personnes qui l'entouraient. Il est allé chercher Agassi et Stepanek. Finalement, ça fonctionnait pas parce qu'Agassi, dans le fond, avait les bonnes idées, mais il est arrivé trop tôt dans la reprise de Novak Djokovic pour retrouver les sommets. Tu sais, quand t'arrives même pas à frapper 3 balles de suite dans le terrain et que l'autre te demande de jouer de façon plus offensive, on s'entend qu'il y a une marge qui est grande entre les deux. Il faut y aller étape par étape. Mais là où les choses ont commencé à bien aller, va chercher à nouveau son coach de toujours, qui est quasiment comme un père, un frère pour lui, qui sait comment le motiver puis le suivre dans ses matchs de façon vraiment intense, c'est Marianne Vajda. Et honnêtement, ce titre-là, moi, si j'étais Novak Djokovic, je le dédierais à son coach, Marianne Vajda, qui est revenu, qui, lui, a vu des gens arriver dans la cellule alors qu'il pensait que c'était lui le maître à penser de Novak Djokovic. Soudainement, tu as Boris Becker qui arrive dans le portrait, tu as André Agassi, Radek Stepanek, lui décide de se retirer et accepte, alors que l'autre est au fond du baril, au fond du tonneau, de revenir à ses côtés. Alors ça, j'ai trouvé ça formidable et ça a commencé à cliquer cette année au tournoi de Rome, juste avant Roland-Garros sur terre battue. Il a fait la demi-finale puis il a joué du grand tennis.
Est-ce que selon toi, il est reparti pour de bon? On va le revoir contre les meilleurs?
C'est sûr. Puis après ça, il a enchaîné, souviens-toi, avec une présence en quart de finale à Roland-Garros.
Oui.
Il menait 5-2 au quatrième set contre Cecchinato pour nous amener plus loin. Puis là, oups! Il a perdu sa concentration parce que c'est pas du jour au lendemain que tu vas être capable de bien te concentrer pendant 5-7 sur un terrain de tennis.
Mm-hmm.
Après ça, dit tellement frustré qu'il n'allait pas jouer Wimbledon. On le voit au tournoi de Queens sur herbe juste avant Wimbledon. Fait la finale à balle de match pour remporter le titre face à Marin Cilic. Et finalement, Cilic réussit à le battre. Et regarde-le aujourd'hui à Wimbledon. Alors, tout s'est mis en place. Les victoires sont arrivées au bon moment. Il y a eu une belle progression en crescendo.
Ouais.
Et le voilà avec le merveilleux trophée de Wimbledon entre les mains. Tu sais,
on a vu l'émotion là, dans ses yeux après cette victoire, bien sûr. Là.
Oui.
Petite question juste avant de te laisser partir, Hélène. Rebecca Marino, je ne sais pas si tu as eu la chance de voir le match ou quoi que ce soit. Elle a gagné aujourd'hui. aujourd'hui à Winnipeg, le tournoi ITF. C'est quand même déjà, si je ne me trompe pas, c'est une 4e victoire pour elle cette année, une 40e victoire au total. Ça va bien. Rebecca Marino, parle-nous un petit peu de sa progression. Est-ce qu'on pourrait la voir parmi, je ne sais pas moi, les 200 meilleures joueuses au monde bientôt?
Oh, très certainement, et même peut-être mieux. Je n'ai pas vu le match parce que j'ai juste de sortir de ma finale de Wimbledon et puis je suis en train d'écrire mon blog pour RDS. Et je dois t'avouer que c'est une fille, ça c'est une autre histoire. Je pourrais t'en parler longtemps. Elle était vraiment très, très, très affaiblie par tous les commentaires négatifs qu'elle recevait sur Twitter et sur Facebook lorsqu'elle perdait ses matchs. Parce qu'on sait qu'il y a une grande partie des gens qui gagent sur les matchs, qui gagent sur le nombre de points, le nombre de parties.
Absolument.
Et elle était évidemment parmi les 30 meilleures joueuses au monde, 35 meilleures joueuses au monde. Alors quand elle perdait, elle se faisait attaquer, elle se faisait faire, elle avait des menaces de mort et elle est devenue complètement en déprime, n'arrivait plus à sortir de chez elle. Triste histoire. Quelques années plus tard, décide de frapper pour le plaisir, de s'inscrire dans un petit tableau. Elle le gagne et revient ici en cellule d'entraînement au stade Uniprix, IGA.
Oui.
Et puis, apparemment, Sylvain Bruno me disait qu'elle s'entraîne, qu'elle est l'exemple du groupe, tellement elle est dédiée.
Est-ce qu'on va la voir à la Coupe Rogers, Hélène?
Ben j'espère, parce que écoute, elle le mérite, hein, de plus en plus. On va sûrement lui offrir une invitation. Puis j'espère qu'elle aura une invitation dans les qualifications pour qu'elle puisse gagner des matchs de haut niveau. Parce que jouer dans le grand tableau contre des filles qui sont top 50, ça serait peut-être un peu raide, mais c'est sûr qu'elle va même sans doute venir à Granby, un autre tournoi qu'elle peut gagner, et Gatineau aussi la semaine prochaine. Alors, c'est vraiment bien, ça arrive à un bon temps, puis elle est formidable, formidable
Excellent.
Cette fille.
Excellent, merci beaucoup Hélène Pelletier, très apprécié.
Merci.
On se reparle très bientôt. On va faire une petite pause. Je viens de recevoir un texte message d'Arcadio Marcuzzi qui, croyez-le ou non, on attend toujours le point de presse en Russie de Didier Deschamps. Donc, il ne pourra pas nous parler immédiatement. On va le déplacer un peu plus tard durant l'émission. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se tourner vers Martin McGuire immédiatement après la pause, puisque Philippe Dano a signé un contrat de 3 ans avec le Canadien de Montréal. Donc, petite pause. Et on poursuit ce beau programme au retour de ceci. Vous écoutez les amateurs de sport sur une station Cogeco.